Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi comme chaque lundi, ou presque, de donner le coup d'envoi de la semaine en votre compagnie. Mais avons-nous véritablement des choses intéressantes à nous dire aujourd'hui? Je cherche. Et je trouve, bien sûr, quel week-end, les amis, d'immenses clubs, parmi les plus grands de l'histoire, incontestablement, sont au sommaire. Certains sont au top, comme on dit chez Sa Majesté. Liverpool trône pour la 20e fois au sommet de l'Angleterre, 20e sacre avec la manière et les supporters qui plus est. Pas de Covid pour gâcher la fête cette année, mais un Mohamed Salah parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. L'Égyptien est-il le plus grand joueur africain de l'histoire du championnat d'Angleterre? Réponse tout à l'heure. Le rouge de Liverpool très vif, tandis que la Maison Blanche n'en finit pas de chuter. La tunique immaculée du Real, certains la considèrent salie aujourd'hui. Salie par qui? Salie par les dirigeants et certains joueurs en marge de la finale de la Coupe du Roi. Classico perdu sur le terrain, comme dans l'image. Quel week-end, mais aussi quel lundi, avec un retour très attendu dans notre studio, celui d'Ibrahima Traoré, la légende guinéenne. Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Ça fait plaisir de vous revoir, de vous entendre de nouveau à l'antenne de RFI. Vous êtes accompagné d'une légende sénégalaise, Yoro Mangara. Bonjour Yoro.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et du...
Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
Vous êtes accompagné d'une légende sénégalaise, vous êtes accompagné également du Rudiger des consultants, Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Hugo, salut à tous.
Vous avez ouvert les hostilités hors antenne dans le bureau, tant pis pour vous. Si nous avons le temps, nous parlerons d'un autre géant au pied d'argile. Cette saison en tout cas, l'Ali, éliminé de la Ligue des Champions en Afrique, FC Pyramids représentera l'Égypte face au Mamelodi Sundowns en finale. Pierrot Guérin, le cerveau, Laurent Salerno, le maestro, ils sont toujours à la hauteur de l'institution, eux, l'institution Radio Foot, c'est parti.
Comme un symbole, l'arbitre de la finale, Ricardo de Burgos Bengoechea, craque. La raison, la pression exercée semaine après semaine sur ses proches.
Il a pleuré devant tout le monde en disant, vous vous rendez compte, mon fils rentre de l'école en disant, papa, les gens disent que tu es un voleur.
Et on a vu rapidement Pablo González Huertas, l'arbitre VAR, qui lui aussi a été ciblé par le Real Madrid depuis quelques jours.
Real Madrid Télévision, la chaîne du club, diffuse depuis plusieurs mois avant chaque match un montage des erreurs supposées contre le merengue de l'arbitre désigné.
Le Real, pour sauver sa saison, n'a plus que cette coupe.
Le monde du football a les yeux rivés sur Séville. Une finale, mais surtout un classico. FC Barcelone, Real Madrid, pour attribuer le trophée 2025 de la Coupe du Roi. Septième finale entre les deux clubs. La plus chaude de l'histoire, dit-on en Espagne. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Direct, il réveille le Real Madrid, il relance cette finale en partout.
Oh là là, Gilias! Goal de Mbappé!
Oh, la montée décisive du Français qui fait exploser de joie tout le FC Barcelone! 3-2, il reste moins de 5 minutes dans cette prolongation. Push me, call on. Allez, le rouge et pour Rudiger.
Regardez-moi ça. Quelle attitude depuis le début du match. C'est reparti.
On peut lancer la poche de glace.
Ah, c'est insensé ce qu'on voit dans cette soirée, ce qu'on voit depuis deux jours. Ils ont été avantagés tout au long du match, les joueurs du Real. Et ils sont tellement conditionnés par leurs dirigeants depuis deux ou trois jours à travers ces vidéos montées contre l'arbitre qu'eux aussi deviennent dingues en fait. Mais c'est la faute des dirigeants.
C'est le Barça qui s'impose et qui remporte la Coupe du Roi 2025. Hansi Flick gagne toutes ses finales. C'est encore le cas ce soir. Victoire 3-2 en prolongation. C'est Jules Koundé qui aura délivré le Barça dans cette prolongation.
Le classico de samedi va-t-il rester dans l'histoire comme un simple match de foot à rebondissement ou bien comme un film, un blockbuster à rebondissement dans lequel le méchant perd à la fin? Si par loyauté pour notre auditoire africain, largement partagé entre les merengues et les blaugrana, nous ne prenons pas parti sportivement ici dans Radio Foot, difficile de ne pas voir le Real comme le bad guy de l'histoire en ce moment. La Maison Blanche, à cause, on l'a entendu, de la pression mise sur l'arbitre de la rencontre avant le match, à cause des débordements de ses joueurs à la fin du match, dont les débordements d'Antonio Rudiger semblent avoir perdu un peu plus qu'une simple rencontre samedi face au Barça en Coupe du Roi. Mais ce qui est une défaite pour le Real Madrid, Naïm Moniol.
C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que tu perds une finale. C'est une troisième défaite contre le Barça cette saison. Tu t'es quand même fait corriger deux fois sur les deux premières fois. Tu as des blessés, notamment Ferland Mendy, qui est toujours plus ou moins blessé, mais bon, là, encore une fois. Tu as trois cartons rouges, donc avec une suspension notamment très lourde à venir pour Rudiger. Ton image est complètement déplorable. Tu te mets de facto une pression pour les prochaines échéances, que ce soit le match du Barça qui arrive en championnat, mais aussi pour la Coupe du Monde des clubs, mais aussi pour les compétitions la saison prochaine, puisque tu vas... a priori faire une saison blanche, ou en tout cas c'est mal barré pour que tu gagnes quelque chose cette année, bah, il va falloir que la pression va être encore plus forte l'année prochaine. Donc ils ont tout raté, absolument tout, sur ce match. Et s'il y a eu un tel pétage de plomb de trois joueurs qui quittent à faire trois cartons rouges, ça prouve que quelque chose ne va pas bien dans ce club. C'est pas qu'une histoire de football, qu'ils soient pas bons sur une année, c'est déjà arrivé, hein, ils ont pas tout gagné le Real. Mais là, au point de balancer des trucs sur l'arbitre, de montrer une telle image, avoir un tel comportement, ça prouve que le problème est grave et profond.
Aussi bien dans la bouche de Naïm Moniol que dans celle des commentateurs de la chaîne L'Équipe, qu'on salue, on leur a emprunté quelques extraits. On entend que ce serait la faute des dirigeants du Real, Florentino Pérez, le président en tête. Ibrahima Traoré, vous avez été joueur. Est-ce qu'un contexte installé par des dirigeants peut peser à ce point sur des joueurs ?
Alors à ce point, moi, j'ai jamais vu à ce niveau-là, mais c'est vrai. Mais moi, j'étais surpris et choqué parce que malgré tout, l'effectif du Real, c'est que des grands champions qui savent qu'une finale aussi, on peut ne pas se faire influencer par tout ce qu'il y a autour. Là, pourtant, ils ont été tous influencés par ce qui s'est passé en amont de ce match-là. Et il faut dire les termes comme ils sont. Ce fiasco-là, c'est un fiasco total et c'est totalement au nom de Florentino Pérez. C'est-à-dire que je pense que Florentino Pérez, il a été l'acteur majeur de ce classico-là, mais pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il a prévu, à mon sens, les deux scénarios. C'est-à-dire que le premier scénario, c'est on va perdre cette finale parce que le FC Barcelone est plus fort, mais on se serait victimisé avant et que ce fait-là, ce ne serait pas de notre faute. Et le deuxième scénario... parce que c'est lui qui a fait les erreurs de recrutement, on sait qu'il a insisté plus que tout pour avoir Mbappé. Le deuxième scénario, c'est se dire, on n'a rien gagné cette saison, donc on va tout changer. Ancelotti va partir, je vais pouvoir prendre l'entraîneur maintenant que j'ai envie. Et donc, moi, je trouve qu'il a joué un jeu qui est machiavélique. Et un jeu qui, jusqu'à présent, il maîtrise encore. Je pense que si on fait une interview de Florentino Pérez, il ne vous dira pas qu'il a en tort. Je pense que ça lui convient dans les deux sens, mais c'est un fiasco total pour tout ce qui est le Real Madrid.
Yoro Mangara, Trump en politique, Pérez en football, président et Maison Blanche, ça fait pas forcément bon ménage en ce moment. Est-ce qu'il vit sa pire période en tant que président, puisqu'on parle de lui, Florentino Pérez? On rappelle qu'il est arrivé une première fois en 2000, qu'il avait été poussé à la démission au milieu des années 2000 parce que la politique des Galactiques, qui consistait justement à acheter des attaquants dont on n'avait pas besoin, ne fonctionnait pas.
Surtout en milieu de terrain dont il n'avait pas besoin, David Beckham, qui était milieu de terrain.
Ensuite, Michael Owen.
Et qui s'est retrouvé milieu terrain axial parce que Figo ne voulait pas quitter son poste. Il était parti juste après.
Il avait perdu les pédales une première fois, Florentino Pérez. Il est revenu brillamment. Oui. Mais là,
la Maison Blanche, pour une saison blanche aussi catastrophique. Et je crois qu'il a une telle emprise sur le club. Parce que quelqu'un comme Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de réfléchi. Mais quand je vois Carlo péter un câble... c'est parce que derrière, il reçoit une pression énorme et que lui aussi vit ses dernières heures, pour ne pas dire ses derniers matchs, à la tête de cette maison.
Mais je pense que Ancelotti, si tu lui avais dit il y a 8 mois, 10 mois, on met que du pognon sur Mbappé, je pense qu'il ne devait pas être content à l'époque. Et je pense que là, tu as vu sur ce match-là et même sur les précédents classicaux que tout l'argent qui a été mis sur Mbappé et qui par conséquent n'ont pas été mis sur d'autres postes, parce qu'on va certainement parler de football quand même un petit peu à un moment donné.
C'est l'idée, bien sûr.
Mais on a vu, non pas un manque de talent, mais un talent insuffisant à certains postes. Tchouaméni, Vasquez, Ceballos, Rodrigo. Et peut-être que le Real, qui ne s'est pas renforcé pour mettre tapis sur Mbappé, bah, sur des matchs comme ça, le perd. Tu le ressens.
On rappelle que finalement, le fiasco de samedi, c'est le point d'orgue d'une saison particulièrement pénible. Je reste un tout petit peu hors football en termes d'image, Ibrahima Traoré, puisqu'on a eu le boycott du Ballon d'Or en début de saison, parce qu'il savait que ça n'irait pas à Vinicius. Des pressions déjà sur les arbitres en Liga, la dénonciation d'un éventuel complot, je crois que c'était en février, en début d'année. Donc là, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, on insiste du côté du Real Madrid, et au détriment quand même des joueurs. C'est ça, encore une fois, qui m'interpelle, c'est que vous mettez vos joueurs dans de très mauvaises dispositions au point de les faire perdre le fil.
Bah là, sur le coup, je trouve que Florentino Pérez, il est dans son rôle du président du Real Madrid, qui est la plus grande institution au monde au niveau footballistique, et il est en guerre contre tout ce qui va à l'encontre de son club. C'est-à-dire que le Ballon d'Or, c'est pas pour un joueur du Real, bon, on boycotte la cérémonie. Dès qu'on peut attaquer les arbitres, on attaque les arbitres, on attaque la fédération, on attaque son rival. On trouve toujours une excuse en amont si le club, lui, n'arrive pas à avoir les résultats qui comptent. Donc moi, je pense que le fiasco, oui, c'est un fiasco sur toute une saison, en fait. Mais il y a un exemple criant, je reviens sur ce que Naïm dit. Ancelotti, j'ai vu qu'il avait demandé à renforcer son staff technique. Ça veut dire que maintenant, vous savez qu'autour du terrain... Tous les staffs, ils ont des iPads, c'est à la minute près où on regarde, où on change, on fait des ajustements. Il avait demandé à rajouter des analyses vidéo dans son staff, parce que là, ils ont fait le comparatif avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone en a 7. Et le Real Madrid en avait 2. Ça veut dire qu'on privilégie le fait d'avoir des grandes stars, même si on a déjà fait l'erreur. C'est-à-dire là, c'était en l'occurrence Mbappé rajouté avec tous ses joueurs,
Rodrigo.
Avec Vinicius. Et on oublie aussi peut-être qu'il y a d'autres équipes qui travaillent, qui font un boulot, qui techniquement trouvent des solutions contre le Real et qu'on sait que ça ne va pas toujours marcher. Alors peut-être on a peut-être un petit peu cru en deuxième mi-temps quand ils reviennent que voilà, ils vont encore le refaire une fois. Mais en fait, l'écart il était tellement colossal parce que ça n'a pas été travaillé en amont. On a juste voulu empiler les stars et c'est le résultat que ça donne.
Et lui, c'est un fin politicien, le président Florentino. Parce que les gens, ils oublient que le Real appartient aux socios. Et ce sont les socios qui vont voter pour le président.
C'est un peu comme un pays. Hein. C'est un petit État.
Exactement.
Dans l'État.
Donc, ce qu'il fait, c'est envoyer des signaux comme quoi que tout le monde est contre nous. Vous voyez, je suis en train de faire du bon boulot, mais le problème, ce n'est pas moi, c'est que les gens sont contre nous. Ouais. Comme ça, demain, les socios vont encore réitérer leur confiance au président Florentino Pérez pour qu'il reste à la tête de ce club.
Bon, alors, on va parler sportif. Mon cher Naïm Moniol. A priori, donc, les problèmes extra-sportifs sont là un peu pour couvrir des mauvaises décisions sportives. Mbappé, il a marqué, il est rentré et c'est plutôt à son entrée en jeu que le Real s'est mis à bien jouer.
Force est de constater que quand il est entré, le visage s'est transfiguré au moins de l'attaque.
Donc, ce n'était pas une si mauvaise décision de le prendre.
Non, mais la question, c'est pas... Mais moi, j'ai jamais dit que c'est une mauvaise décision de prendre Mbappé.
Je vous embête un petit peu.
Alors, je vais te retirer ton foulard, toi. Hein. Non, c'est pas une mauvaise décision. D'ailleurs, quand il est rentré, il a changé le visage de l'attaque. Mais le problème, c'est qu'un joueur ne peut pas faire une équipe, surtout à ce niveau-là. Si vous mettez Mbappé à Grenoble, pas peut-être qu'il va les mettre dans top 5 de Ligue 2. Mais à un moment donné, quand vous êtes en Ligue 1...
Et à Amiens.
Voilà. À Amiens. Ouais. On n'a pas d'argent pour le payer, malheureusement. Mais bon. Mais le souci, c'est que c'est une équipe qui est en souffrance sur beaucoup de postes. En dehors de la blessure de Mendy, voilà, on va mettre ça de côté. Parce qu'il
a priori, ce n'est pas ça qui est déterminant pour le Real Madrid.
Regardez Lucas Vázquez, tout ce qu'il prend sur le côté droit. C'est catastrophique, le secteur défensif n'est pas bon. Je regardais sur le premier but. Il y a 7 joueurs du Real dans la surface, au moment du but. 7 joueurs du Real. Pourtant, quand Lamine Yamal a le ballon, De Jong peut dédoubler, Pedri arrive à l'entrée de la surface. Il y a 2 joueurs non marqués alors qu'il y a 7 joueurs du Real dans 18 mètres. Comment c'est possible ? Vous avez des joueurs comme Rodrigo qui ont été complètement mauvais. Vraiment, Tchouaméni, il a été mauvais. Quand Mbappé est rentré, offensivement, on a vu un joueur qui amenait de la vitesse, de la profondeur. Moi, je trouve qu'il a gagné également en élimination, Mbappé, sur un contre un en dribble. Là où à Paris, il n'était que de la vitesse, là, je trouve qu'il a un peu... Voilà. Il met un but, c'est bien 20 minutes, mais ce n'est pas suffisant. Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure du coaching, ton équipe, elle s'est affaiblie. Après, et puis le fait d'être désordonné derrière, tu prends des buts, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a une erreur de Courtois, il y a une erreur de Brahim Diaz sur le dernier but. Tout le monde tape sur Modric. Ouais, mais il fait une passe plein axe. Oui, mais à un moment donné, quand on te fait une passe, l'idée, c'est d'attaquer le ballon quand même. C'est pas de reculer. Et puis les autres, ils doivent te parler. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs de footballistique, tactique. Et tu sens aussi que sur ce genre d'erreur, tu sens que c'est une équipe qui vit pas bien, parce qu'ils ont le talent normalement, le Real, pour faire tout ça. Donc tu as vu tout ce qui n'allait pas au Real. Le Barça en face, ils font pas tout bien le Barça, mais enfin, tu as vu les joueurs qu'ils ont, tu as vu le banc qu'ils ont, bah, toute la différence est là. Et quand tu prends 3 défaites, 12 buts marqués en 3 matchs, ça veut dire quelque chose hein, sur une saison. Hein. Ce n'est pas une coïncidence.
L'autre buteur est français également, du côté du Real, Tchouaméni. Néanmoins, même s'il marque, Tchouaméni, Ibrahima Traoré, bah, ce n'est pas Toni Kroos, C'est pas le retraité, c'est pas Ibrahima Traoré, bien sûr. C'est pas Luka Modric quand il n'a pas 39 ans, son âge actuel. Il y a un milieu de terrain qui a baissé, qui s'est affaibli. Il y a une équipe à reconstruire. C'est ça maintenant qu'annonce le fiasco de samedi. Cet été, il va falloir faire des grands travaux. Rafraîchir la peinture, changer le papier peint, refaire le plancher du côté de la Maison Blanche.
Mais en fait, c'est sur plusieurs saisons en fait, où on a été un petit peu aveuglé par tous les miracles qui sont produits en Ligue des Champions, notamment par cette équipe. Il y a, dans tous les cas, sur la plupart des matchs en tout cas, le Real ne doit jamais passer contre Paris, contre Manchester City ou je ne sais quelle autre équipe encore, Chelsea, le Real ne doit jamais passer. Mais comme c'est le Real Madrid et que le club est tellement grand, il fait tellement peur, mais qu'on oublie de travailler en fait. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que savoir que Tchouaméni, il ne peut pas remplacer Toni Kroos poste pour poste, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant. Savoir que Modric ne peut plus avoir les performances qu'il avait il y a 4-5 ans, dû à son âge. On le sait très bien que Lucas Vazquez, il y a un jour où on va vraiment voir que ce n'est pas son vrai poste.
Latéral droit.
Mais ce n'est pas son vrai poste. Et en plus, là où moi je suis un peu surpris, c'est que on met Valverde là, qui donne satisfaction un peu, même si c'est pas
Il n'est pas arrière droit non plus.
Il n'est pas arrière droit, mais qui dépanne ou quoi que ce soit. Et au final, on essaye toujours de se remettre dans le contexte où on a fait des miracles, où on a gagné. Mais c'est pour ça, Ferland Mendy, moi, pour un joueur qui sort au bout de la 10e minute, c'est que c'est un joueur qui ne pouvait pas jouer le match.
Mais on avait même annoncé qu'il ne pouvait pas jouer.
Et donc, pourquoi il joue? Parce que ils se disent qu'on a toujours gagné comme ça en ayant Ferland Mendy, en ayant Vasquez, et que sur un match, peu importe le scénario, on va faire le boulot et ça va passer. Sauf que là, c'est contre une équipe qui, elle, travaille, qui a changé en plus d'identité. C'est-à-dire que le Barça de Flick, ce n'est pas le Barça d'un Guardiola ou d'un Luis Enrique. C'est une équipe qui est beaucoup plus agressive offensivement et qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts, qui ne se repose pas seulement sur la possession de balle. Donc les autres travaillent. Et vous avez le Real Madrid qui reste le grand Real Madrid, même dans la tête des joueurs, mais qui ne travaille pas.
On va parler justement, on va parler du Barça de Flick. Je voulais juste poser une question. Rudiger, vous avez joué avec lui à Stuttgart. Vous le connaissez.
Ouais,
grâce à vous, il a montré. Il est devenu fan, auditeur fidèle de Radio Foot. Hein, donc je vais lui demander de boucher ses oreilles. Vous comprenez qu'il soit devenu le méchant, le PP 2.0, le bad guy du Real Madrid, celui qui est agressif, celui qui va prendre une lourde suspension, ce qui s'en prend à l'arbitre, Ibrahima Traoré.
Bah alors moi, je peux l'expliquer peut-être par quelque chose qu'en le connaissant, c'est d'être rentré un petit peu dans le jeu de son image. C'est-à-dire qu'on aimait bien l'appeler le fou, le loco. Et pour avoir parlé certaines fois avec lui, je lui ai dit, il y a beaucoup de situations, tu t'en sors quand même. Parce qu'il y a quand même quelques matchs où il aurait pu prendre un carton rouge, et pas qu'une fois. Mais le fait que les supporters l'appellent le fou et qu'il ait un peu cette exubérance ou quoi que ce soit, bah déjà, lui, ça cache le fait que c'est malgré tout un très, très bon défenseur central. Et de faire ça, les gens, les socios du Real Madrid, ils vous diront « Oui, mais parce que c'est Toni Rüdiger, mais parce qu'il est fou. » Mais en fait, c'est parce qu'il s'est enfermé un petit peu dans cette image que les socios lui ont donnée, où il s'y plaisait, jusqu'au jour où ben, vraiment, là, ça pète.
Vous allez lui écrire?
Je vais écrire tranquillement. Là, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai écrit avant le match. Là, je ne l'ai pas écrit parce qu'évidemment, ce n'est pas le moment. Mais c'est pour prendre des nouvelles, évidemment.
Pas mal le degré de séparation avec Anthony Rudiger, un joueur du Real, dans Radio Foot, grâce à Ibrahima Traoré, on est tout proche. On va parler de l'autre club du Classico, celui qui a gagné, c'est pas mal aussi d'en parler. Il semblait toucher le fond il y a quelques années, alors que le Real triomphait. Mais à vous écouter, Ibrahima Traoré, un petit peu contre le cours
contre
du
la
travail
logique,
bien
la logique,
fait, contre la logique. Le Barça est donc en route pour un triplé ou un quadruplé cette saison sous la houlette de son entraîneur, le bon Flick, Hansi. De son prénom, et avec un Jules Koundé incontournable sur le terrain, derrière mais aussi devant, le Français buteur providentiel samedi soir.
Sur l'action du but, ça va très vite. Je comprends que Modric va faire une passe vers l'avant à Brahim Diaz et je l'anticipe. Je fais un bon contrôle, je vois Lamine Yamal sur la droite, mais je me rends compte que j'arrive près de la surface. Je réalise que c'est le bon moment pour tirer. Donc je tente la frappe et ça me réussit. Mes coéquipiers m'ont chambré parce que je mets très peu de buts à l'entraînement. Mais je suis très heureux parce que ce but est important et que nous méritions de gagner.
Jules Koundé, visage de ce Barça de retour vers les sommets, l'un des visages de ce Barça qui excelle cette saison, Naïm Manial.
Ouais, il y a Pedri et Lamine Yamal également qui sont plutôt bons, mais c'est vrai qu'il a trouvé une place de titulaire dans une équipe qui finalement lui va bien, parce qu'il y a tellement un gros pouvoir offensif que tout son travail de latéral, de montée, et encore, c'est pas celui qui monte le plus, paye. Il est sérieux, il est nettement moins critiqué qu'en France. Et regardez comment il est adoré en Espagne, regardez-le en équipe de France, le nombre de critiques qu'il prend. Non, mais c'est la vérité. Il est tellement critiqué en France que finalement, même quand il fait un match moyen, t'as l'impression qu'il a été mauvais. Alors qu'en Espagne, il est bon et on en fait quelqu'un d'important. Il est rentré dans le système d'Hansi Flick et bah, tant mieux pour lui, ça marche.
Moi j'ai une question, Ibrahima. Pourquoi certains footballeurs ne sont pas reconnus en France comme vous l'êtes par exemple en Allemagne, Koundé en Espagne? Qu'est-ce qui se passe?
Le fait d'être parti jeune peut-être.
Déjà, il y a le fait d'être parti jeune, donc on accepte moins en France. Et il y a aussi, j'ai le sentiment que parfois en France, il y a des joueurs qu'on aime bien mettre dans une catégorie et ne plus les sortir de cette boîte-là. Par exemple, je peux vous prendre un exemple. Tout le monde tombait sur Benjamin Pavard pendant un moment. Ouais. On est tombé sur Jules Koundé, sauf qu'on trouvera moins de gens maintenant qui feront leur mea culpa pour dire que Benjamin Pavard est un top défenseur central du côté de l'Inter. Et pour son compagnon d'attaque aussi avec qui j'ai joué, Marcus Thuram. Tout le monde se moquait un petit peu de Marcus Thuram. Très peu de gens vous diront qu'il a une progression incroyable et qu'il réalise une très bonne saison. Je trouve qu'en France, on a du mal à changer d'avis en fait. Et on aime bien mettre les joueurs dans une case et les laisser dedans.
Vous avez parlé de deux latérales, joueurs latérales. Droit plutôt formé en défense centrale, donc Koundé, Pavard. Vous avez joué en faux pied sur le côté droit et c'est utile d'avoir ce type de latéral tel Koundé derrière vous, un peu comme Thuram, pas Marcus, mais plutôt Lilian, c'est-à-dire des latéraux qui ont plutôt un profil de défenseur et qui peuvent apporter éventuellement et marquer, on le sait aussi avec Lilian. Quand on est justement un joueur offensif, et il y a du talent offensif du côté du Barça, c'est important ce type de joueur.
Oui, c'est très important et je pense notamment c'est encore plus important quand on a un joueur comme Lamine Yamal. C'est-à-dire que Koundé, il est tellement fort défensivement, il a tellement un volume de jeu que ça empêche de faire beaucoup d'efforts à Lamine Yamal. Et en plus de ça, ça lui donne la liberté offensive de pouvoir, une fois rentré à l'intérieur, combiner ou alors prendre le couloir comme il le sait faire, Lamine Yamal. Et Koundé, il monte quand il faut monter, il monte au bon moment et il est souvent là. S'il y a une perte de balle, il est directement là pour aider. Je pense que c'est, dans cette configuration, le joueur idéal pour Lamine Yamal plutôt que... je sais pas moi,
un Trent Alexander-Arnold,
voilà, Hakimi, exactement. Ou un Hakimi, ce serait beaucoup plus dur pour un jeune joueur de ce talent-là et qui est tellement fort offensivement de devoir partager le couloir avec un latéral très offensif.
Quelles autres individualités avez-vous envie de mettre en valeur? Naïmoniol est un puriste, donc il a cité des joueurs qu'on a du mal à connaître. Rafinha, Lamine Yamal, Pedri.
Kubarsi, sur le deuxième but, cette interception, ce qu'il fait, le tacle, c'est sur le premier, je crois. Du FC Barcelone, quel défenseur quoi. C'est un joueur qui n'a même pas 19 ans. Moi, je l'ai vu pour la première fois face au PSG en Ligue des Champions. Il avait 17 ans, il avait tenu la baraque. Après, ce qui me plaît dans ce Barça, c'est leur faiblesse économique qui est à l'origine de cette faiblesse de cette équipe que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire parce qu'ils ne pouvaient pas recruter, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils se sont donc focalisés sur la Masia, qui leur a donné de très bons jeunes.
Alors, les Koundé, Lewandowski, Rafinha, c'est quand même
le moyen. Non, mais sur ces trois dernières années, ils n'ont presque pas fait Lewandowski, ils l'ont pris gratuitement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Pour
mais Rafinha, ça a coûté de l'argent.
Rafinha, ça a coûté un peu de sous. Christensen a coûté un peu de sous.
Il y a eu un moment où il y a eu quand même, à l'époque de Xavi...
Non, mais là où il a raison.
Ils avaient activé ces fameux leviers économiques, ils avaient vendu une partie des...
Là où il a raison, c'est que... tu peux recompter sur la Masia à très haut niveau.
C'est ça.
Parce que pendant un temps...
Pedri, Yamal, évidemment.
Voilà, Pedri, Yamal, même si ce n'est pas la même génération, mais tu as eu une période, quand ça allait moins bien au Barça, où tu pouvais moins compter sur la Mafia, où tu sortais un joueur, deux joueurs, puis finalement, les mecs disparaissaient rapidement. Ansu Fati a disparu, rappelle-toi, El Zalzouli. On dit, il est pas mal, lui. Puis finalement, sa carrière, elle est complètement disparue. Donc là, tu peux recompter, tu as Kubarsi, tu as Firmin Lopez, tu as Pedri, tu as Yamal, voilà.
Balde.
Là, mais... Comment ?
Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est le travail d'Hansi Flick qui a aussi ressuscité des joueurs qu'on pensait complètement cramés ou pas au niveau de Barça. Quand on pense à Rafinha la saison dernière, si Hansi Flick n'y croit pas, c'est pas du tout le même joueur qu'on a vu la saison.
Y a un truc...
Lewandowski pareil, et surtout, Inigo Martinez. qui est devenu défenseur, le taulier de la défense, alors que l'année dernière, il était limite catastrophique.
Mais
donc
tu
c'est
sais,
le travail de flic,
y a quelque chose qui a fait du bien au Barça, et ça, il faut le dire, c'est qu'on est sorti de cette école catalane où il fallait absolument que les joueurs fassent du tiki-taka, et des 1-2, et du 4-3-3. Qu'est-ce qu'on n'entendait pas ? Rappelle-toi à l'époque, Valverde, quand il met un 4-2-3-1 avec Paulinho devant la défense, le mec, il est quasiment brûlé en place publique. Tu vois, aujourd'hui, tu as un entraîneur qui dit non, moi, le cadre barcelonais, on ne tire pas un trait dessus. Il y a peut-être d'autres trucs à proposer, surtout avec les joueurs qu'on a. Bah, ça tourne quand même mieux. Parce que quand on dit le Real, ça va mal, le Barça, 2 ans de suite, il n'est pas sorti des poules en Ligue des Champions. Pour le Barça, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Donc, il a quand même fait la révolution. Mmh. Une révolution de style, une révolution dans le jeu. Contrairement à ce qu'on disait à l'époque, les socios, ils ne lui sont pas tombés dessus. Hein. Bon, bah, puis finalement, tu vois, ça tourne plutôt bien. Il est en demi-finale de Ligue des Champions, les leaders du championnat d'Espagne. Il fait une super Coupe d'Europe, une super Coupe d'Espagne. Il gagne la Coupe d'Espagne. Ça va, c'est pas mal quand même.
La dernière fois qu'il a entraîné un club, ça ne s'était pas trop mal passé non plus. Il avait un peu tout raflé du côté de l'Allemagne. Mais alors, lui, c'est un peu l'inverse d'un Koundé, où c'est un peu le miroir. C'est-à-dire que en Allemagne, je ne sais pas si on lui a pardonné l'élimination au premier tour de la dernière Coupe du Monde. Il parvient à se relancer finalement loin de chez lui, tant mieux pour lui.
Le dernier entraîneur à avoir fait cette révolution au Barça, je crois que c'était Frank Rijkaard quand il faisait signer Edgar Davids.
À un moment donné, post-Guardiola, dès qu'un entraîneur arrivait, s'il ne faisait pas ce que faisait Guardiola, il se faisait taper dessus. Ouais. Alors que rappelle-toi.
C'était le cas de Luis Enrique. Il s'est fait taper dessus.
Mis à part Tata Martino qui était là parce que c'était plus ou moins le père de Messi qui l'avait mis. Tout le reste, et les Paulinho et tous les mecs qui sont. Valverde et tous les gars qui sont arrivés, Coman et machin, ils se faisaient taper dessus. Au final, aujourd'hui, le Barça joue bien.
C'est vrai qu'il a changé complètement d'identité.
Il joue mieux que beaucoup d'entraîneurs qu'on a vus sur les dernières années. Ça joue mieux qu'avec Xavi.
Reste à savoir si ça suffira pour réaliser le grand chelem. C'est en tout cas l'objectif d'un Barça qui est bien lancé et qui sera à l'honneur de Radio Foot cette semaine à l'occasion des demi-finales de la Ligue des Champions. L'Inter Milan sur son chemin. En attendant, Radio Foot est encore loin d'être terminé pour ce lundi. C'est la mi-temps en musique dans le pays du foot, ou l'un des pays du foot, le Brésil. Uli Costa, Sandália de Prata, Roupa de Tirar, c'est le titre. Mon accent portugais n'est pas celui d'Annie Gasnier, mais c'est sélectionné avec amour par RFI Musique.
Como é que eu faço pra te ver de novo? Me diga como te encontrar. Chega de papo, eu quero te pegar, te amassar. Agora é tarde, entrei no jogo e só vou sair. De ir a roupa de tirar. Que eu vou lá te encontrar. Pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pra. Toca a roupa de ir a roupa de tirar. Mostra como dedilhar nessa luz do amanhã que entra no seu quarto. Se seu lençol, cobertor, travesseiro. Demorou, demorou, demorou. Demorou, beijo meu corpo inteiro. Tenho certeza que vai ser gostoso. Baby, já volto pra continuar. De ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar. Pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá.
À la la demande populaire, j'y retourne. Uli Costa, Sandalia de Prata, Rupa de Tirar dans Radio Foot sur RF.
Liverpool are the champions of the Premier League.
Liverpool, champion d'Angleterre pour la 20e fois de son histoire.
Somerset, lovely, Luis Diaz. That's Liverpool's equaliser. The canister. This is going to come to Gakpo. Who scores? Liverpool have three. Udogi in his way. Salah's beaten him. He just had to score today on Liverpool's special, special day. It's Udogi this time. Liverpool, the Premier League champion.
Quelle émotion, Anfield.
Liverpool, once again, the kings of England.
Le plus grand groupe de musique vient de Liverpool, le plus grand hymne de stade de foot vient de Liverpool, les plus belles communions entre joueurs et fans, elles se font à Liverpool, et le meilleur joueur africain de l'histoire de la Premier League, il joue probablement à Liverpool, le meilleur club d'Angleterre, il est à Liverpool. 20e sacre pour les Reds. Il partage de nouveau le trône avec le grand rival Manchester United avant, pourquoi pas, de le récupérer pour eux seuls la saison prochaine. En 2020, on se souvient que Liverpool avait mis fin à 30 années de disette en championnat. Mais il avait fallu célébrer cette délivrance sans le public. Et oui, on était en plein Covid. En 2025, le rouge est plus vif que jamais. Titre validé avec 5 buts contre Tottenham à Anfield, avec les fans en tribune pour Ibrahima Konaté et ses coéquipiers.
Dès l'arrivée au stade, en toute humilité, je savais qu'on allait gagner parce que c'était spécial. Ce qu'on ressentait, c'était inédit. Même les joueurs dans le bus, ils n'étaient même pas à leur place. On était tous debout en train de regarder ce que les fans y faisaient. Et encore plus aujourd'hui, c'est... il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe. Même s'il reste quelques matchs, mais là, on a plié le game et bah, c'est fini. Hein.
Ibrahima Konaté qui n'était pas là en 2020. Je précise, est-ce que c'est la vraie délivrance? Est-ce qu'elle est là en 2025 avec ces images qu'on aurait dû voir en 2020? Mais en 2020, on le gagnait enfin ce titre après 30 années de disette. Ibrahima Traoré, vous choisissez quel cru? 2020 ou 2025?
Non, parce qu'une petite préférence aussi pour le travail de Jurgen Klopp qui se continue là.
Donc 2020
avec celui d'Arne Slot, mais en 2020, oui, parce que ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient plus gagné le titre. Ils étaient complètement, ils avaient plus de titres à l'arrivée de Ferguson, ils avaient plus de titres que Manchester United. Et au départ de Ferguson, ils avaient le Manchester United avait plus de titres devant, qu'eux. Ouais. Donc ça veut dire que je pense que celui-là c'était vraiment un soulagement. Et là, c'était juste le fait de pouvoir le fêter tous ensemble.
Bon, puis en 2020, il y avait Sadio Mané.
Il y avait pas que lui.
Il y avait Naby Keita aussi. Voilà. Ah, bah, voilà. Mais je comprends. Bah, en même temps, je me tourne à ma droite, il y a aucune objectivité.
Okay, c'est ça. Donc il y avait 3 Africains de plus, quoi. Il y avait Joël Matip, il y avait Sadio Mané, il y avait également.
Mais là, le fait qu'il y ait les images, la communion avec les supporters.
Oui, forcément. C'est pour moi.
S'il y a un club qui mérite ça, peut-être avec Dortmund ou Marseille, voilà, il y a des clubs qui méritent ça.
Et bon, après, c'est pour cette saison, je crois qu'il y a eu moins d'adversité pour Liverpool sur cette première ligue, alors qu'en 2020, il y avait Man City qui carburait de ouf.
C'est ça.
Ils étaient presque à presque 100 points, ils étaient plus de 95. Liverpool a été champion, ils avaient quoi, 1 point, voire 2 points de plus. C'était compliqué. Alors que cette année, ils étaient en roue libre. Quoi.
Parce que finalement, ils sont sur le même rythme que d'habitude. Ils sont à 82 points, il reste 4 matchs. Donc, c'est-à-dire que 3 fois 4, 12 maximum, ils seront à 94.
C'est ça.
C'est à peu près ce qu'ils font normalement. Ouais, sauf qu'en temps normal, tu as Manchester City qui est là. Et le gap, il se fait sur les confrontations directes. Et les 3-4 points que tu n'as pas pour être champion, bah, ils viennent des points que tu perds contre City. Cette année, City a tellement raté, à un moment donné, a tellement eu une séquence terrible que Liverpool, qui a fait une performance monstrueuse, hein, parce que 2 défaites dans la saison en Premier League, c'est de très 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 haute performance. Mais au final, c'est le prolongement, Ibrahim a raison, c'est le prolongement des années club. D'ailleurs, l'effectif n'a pas changé, hein, parce que Chiesa n'a pas suffisamment pesé dans l'équipe pour dire que ça a changé. Donc,
c'est les mêmes.
On va y revenir, je voudrais simplement ouvrir une parenthèse. On parlait des joueurs africains qui étaient là en 2020. Bon, il y en a un qui est toujours là, il s'appelle Mo Salah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il a marqué hier pour la première fois depuis le mois de mars au passage en Premier League. 5e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League désormais. Mo Salah, derrière qui, au fait? Qui sont les 4 devant lui?
Henry
est derrière. Non.
Lampard.
Lampard est derrière aussi. Schürrer est le premier.
Andy Cole, Wayne Rooney.
Exactement, Andy Cole 4e, Wayne Rooney 3e.
Et Harry Kane.
et Harry Kane. Robbie Fowler, il est encore un petit peu derrière. Mais vous aviez quasiment le top 10. Donc Cole 4e, Rooney 3e, Harry Kane 2e et Shearer loin devant 1er. À défaut d'être le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue, Mo Salah est-il incontestablement le meilleur Africain de l'histoire de la Première Ligue devant par exemple Drogba ou Sadio Mané?
Sur le plan des stats et du jeu, oui, de loin. Mais par rapport à Drogba, ce qu'il a représenté, ce qu'il représente pour l'Afrique, pour le continent africain, je crois que Drogba est dans le cœur des Africains un peu plus que Mo Salah. Dans le cœur des Africains, je dis, pas au niveau de stade et au niveau des stades, de loin, Salah est le meilleur.
Alors ça, c'est l'avis de Yoro Mangara. Je voudrais entendre celui d'Ibrahima Traoré tout à l'heure, en attendant celui des auditeurs de RFI, ça peut être intéressant aussi.
C'est Coran Bey depuis le Sénégal. Ce que le Pharaon réalise durant toutes ses saisons avec les Reds, c'est quelque chose de très exceptionnel. Parce que Mohamed Salah a été indispensable aux Reds durant toutes ces années. La preuve, ils sont champions pour la 20e fois de leur histoire. Le Pharaon, d'après moi, il est l'un des meilleurs joueurs africains de la Première Ligue.
C'est Amadou Boukar Maïga, malien, vivant à Tombouctou, précisément à Kabara. Actuellement, Mohamed Salah est le meilleur joueur parce que cette saison seulement, il a marqué. Il est impliqué dans 56 buts, c'est-à-dire buts et passes décisifs. Il est le meilleur actuellement. Il est parmi les prétendants au Ballon d'Or africain.
C'est Franck depuis la Côte d'Ivoire. Mohamed Salah est le meilleur joueur africain. Oui, quand il dépasse des Drogba, il dépasse Samuel Eto'o. Mohamed Salah est le meilleur joueur africain.
Je me nomme Hamdiata Ndiaye. J'appelle de Guinée-Conakry. Pour moi, Mohamed Salah est le meilleur joueur africain de la Première Ligue. Il a été l'élément clé de Liverpool pour le titre de champion de cette saison. Et s'il faut, il peut même être le meilleur joueur de la Première Ligue. Après tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a montré le chemin du succès cette saison à Liverpool.
C'est Serge Ndiaye depuis Dakar. Évidemment que Salah est le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Son palmarès est pas pour lui. Deux fois champion, trois fois soulier d'or, plus de 20 buts à chaque saison. Et pour couronner le tout, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Il est de loin le meilleur joueur africain de l'histoire de la Premier League.
Nos auditeurs ont du talent et des avis. Les notes vocales sur WhatsApp, le numéro sur notre page Facebook. J'oublie évidemment Yaya Touré, hein, parmi les grands joueurs africains de l'histoire de la Premier League. Ibrahima Traoré, devant Drogba, devant Yaya Touré, Mo Salah, dans l'histoire du championnat d'Angleterre?
Ah, pas forcément pour moi. C'est une question de sensibilité. Moi, j'aime bien ceux qui ont ouvert la porte, donc Didier Drogba pour tout ce qu'il a fait déjà dans un premier temps. Et aussi Yaya Touré, parce que Yaya Touré, il a révolutionné quand même toute une équipe. C'est-à-dire que c'était le socle d'une équipe et un poste. Mmh. Les chiffres de Yaya Touré, c'est des fois des saisons à 20 buts en tant que milieu de terrain. Évidemment que Mohamed Salah, si on regarde les statistiques et tout ce qu'il a fait, il fait évidemment partie de ces trois-là. Et un qui j'aimerais bien qu'on n'oublie pas, c'est quand même aussi Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est quand même 5 premières ligues. Et ne pas oublier la saison incroyable qu'il fait avec Leicester. Je ne vois aucun autre joueur africain capable de pouvoir prendre un club de ce niveau-là et de le ramener quand même sur le toit de la première ligue. Mais évidemment que Mohamed Salah, c'est... Mohamed Salah, je pense que s'il continue encore comme ça, même si l'âge vient, il va même peut-être rentrer dans la conversation et on va enlever le côté africain qu'on met des fois trop souvent, le meilleur joueur africain, pour parler de la conversation du meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'avec Kevin Durban, on en a pas le mal à le faire. Hein. On ne dit pas le meilleur belge ou quoi que ce soit.
Ouais. Les Donc, Africains, il faut pas forcément
on a tendance catégoriser. À dire le meilleur joueur africain. Attention, Mohamed Salah, avec tout ce qu'il réalise, il fait potentiellement partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue.
Et les joueurs que vous avez cités ont été, en leur temps, meilleurs joueurs de la Première Ligue tout court. Vous êtes beau reste, Ibrahima Traoré. Belle passe décisive. Mo Salah, s'il continue, il va continuer du côté de Liverpool. 32 ans, après, pour l'instant, 33 buts et 23 passes décisives cette saison. Effectivement, c'est impressionnant. Mais cette série en cours, elle est principalement établie en première partie de saison. Naïm Moniol, ça c'est un peu compliqué pour lui comme pour toute l'équipe. Sur la suite, Van Dijk va également prolonger. Van Dijk, il est un peu comme Mohamed Salah, il est plus tout jeune. La question un peu de la continuité pour cette équipe de Liverpool, il y a un 21e titre pour redevenir seul sur le trône d'Angleterre, donc ça peut être tentant, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une usure? Vous la voyez comment cette équipe de Liverpool à l'avenir?
À partir du moment où tu fais une saison comme ça, c'est difficile de dire qu'elle est usée et qu'il faut tout changer. Tu vas forcément changer si Alexander-Arnold s'en va.
Mais alors, après... je reviens sur ce que disait Ibrahima Traoré. Est-ce que c'est la première saison réussie d'une nouvelle ère, celle de Slot, ou le barreau d'honneur de la grande ère Jürgen Klopp.
Mais on est sur la continuité de Klopp. Vous ne changez pas de style, vous ne changez pas de joueur, vous avez exactement... Et en plus, même dans le Madden Bowl, dans le coaching, il utilise toujours les 14-15 mêmes joueurs que Klopp. Arnaud Slot, il n'a pas révolutionné Liverpool. Il a eu justement l'intelligence de surfer sur tout ce qui a été fait, de conforter les joueurs dans ces positions-là pour avoir, avec le temps évidemment, il va forcément changer des joueurs. Alexander-Arnold va s'en aller. Peut-être que des joueurs qui ont un peu perdu leur place, comme Jota, comme Darwin Núñez ou comme d'autres, vont peut-être s'en aller, prendre d'autres joueurs et faire une rotation. Aujourd'hui, on ne va pas dire oui, il faut tout changer, oui, sans user. Et Van Dijk, il a retrouvé, je pense qu'on a vu le meilleur Van Dijk depuis 3 ans. L'autre, Mohamed Salah, il a mis plus de buts en première qu'en deuxième partie de saison. Enfin, les statistiques sont quand même là. Donc non, il ne faut pas tout changer, ils ne sont pas usés. Par contre, il faut ne pas faire ce que fait le Real, c'est essayer d'être vigilant sur ce qui se passe, commencer à les entourer pour au moment où ils vont perdre de leur niveau, ne pas se retrouver démunis.
Parce que Yoro Mangala, j'insiste un petit peu, effectivement, elle est magnifique cette saison de Liverpool, mais... Il y a un peu un avant et un après l'hiver. Ça a pas, à partir du printemps même, ça a commencé un petit peu à être moins bon que l'extraordinaire première partie de saison.
Moi, je n'étais pas surpris. Est-ce que vous voyez le contre-pressing et le pressing de cette équipe sur cette début de saison? C'est énorme ce qu'ils faisaient. Je regardais les stats, ils étaient tout le jour entre 12 et 13 km par joueur. Ça, on ne peut pas le faire sur toute une saison. Il fallait s'attendre qu'il y ait du moins bon. Et malheureusement, ça s'est passé au mois de mars où ils se font éliminer par le PSG, ils perdent face à Newcastle en coupe, etc. Mais sur la durée de la saison, c'est l'équipe la plus régulière et la meilleure de la première
ligue. Mais ce contre-coup, il ne va pas se confirmer la saison prochaine. Ça, on va revenir...
Oui. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de raison...
En fait, il y a deux choses. C'est que Naïm, il l'a dit, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que ils n'ont pas les poursuivants, ils n'ont pas poursuivi très longtemps. C'est-à-dire, on parle souvent de Manchester City qui s'est complètement effondré. Je pense que... Mais on ne parle jamais d'Arsenal qui n'y arrive jamais. Tout le monde sait qu'Arsenal, ils ne tiendront pas la distance. C'est-à-dire que Liverpool, dans le rétro, ils ont vite compris qu'en étant un peu moins fort qu'en première partie de saison, ils seraient quand même champions.
Qui peut expliquer la baisse relative.
Oui, mais de fois, Mohamed Salah, il faut revenir à quand même une chose que je trouve que Arne Slot, il a très bien fait, c'est que je trouve qu'il a réinventé le joueur. C'est-à-dire que Mohamed Salah, j'ai plus l'impression que maintenant c'est un meneur de jeu qu'on peut dans cette équipe. Parce que si on regarde toutes les passes décisives et les avant-dernières passes, tous les décalages qui sont faits, les actions de démarre de Mohamed Salah sans compter les buts, c'est quand même un Mohamed Salah différent de ce qu'on voyait, un peu moins égoïste, plus altruiste que ce qu'on voyait avec Jurgen Klopp.
Et ce qu'il a changé également, Slot, c'est ce double pivot au milieu, c'est-à-dire McAllister et Gravenberch, faire jouer Szoboszlai en numéro 10, alors qu'avec Klopp, c'était un 4-3-3 classique.
Un message de félicitations pour Liverpool, signé d'un certain Josep Guardiola.
Avant toute chose, en mon nom et au nom du club, je tiens à féliciter Liverpool pour sa victoire en Premier League. Il n'y a aucun doute, c'est complètement mérité. C'est une équipe fantastique. Il s'est produit pour Liverpool ce qui s'est produit pour Manchester City pendant 4 ans. Ils ont repris le titre et j'espère que la saison prochaine, nous serons meilleurs et que nous pourrons rivaliser jusqu'à la fin du championnat, ce qui n'a pas été possible cette saison. Alors une fois encore, toutes mes félicitations aux Reds. To compete until the end of this season could not be
possible. So Liverpool, congratulations. Voilà, Liverpool est prévenu. Guardiola, il n'a pas envie d'enchaîner de saisons galères d'affilée.
Est-ce que ça veut dire qu'il sera encore à Manchester City l'année prochaine?
Il l'a déjà signé. Après, on verra. Tout dépendra aussi de la décision de la justice, quoi.
Par rapport à Manchester City, pas par rapport à Guardiola.
C'est-à-dire que est-ce que lui il veut revenir, mais est-ce qu'il en a encore la capacité? Parce que l'usure qu'il y a eu, qu'on aurait pu imaginer de Liverpool, la bonne nouvelle, c'est que Jürgen Klopp, il comprend que son temps est fini et de lui-même, il s'en va. Est-ce que Guardiola ne va peut-être pas rentrer dans cet esprit de « je veux absolument reconquérir le titre », mais qu'il ne soit pas en capacité, je ne sais pas.
Parce que là, il va falloir faire un sacré ménage à Manchester City. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de coach, là, pour le coup. Il y a quand même 6, 7, 8 joueurs à dégager et à faire venir. Et vu les exigences qu'il a dans le jeu... Avec son idée du jeu très bien, très personnalisé, machin, tu peux pas prendre n'importe qui là-dedans. Donc non, c'est. Après, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que Arnaud Slot va recruter l'année prochaine.
Voilà. Et vous savez?
Il va falloir recruter un arrière droit, puisque Alexander Arnold va s'en aller. Il y a très certainement des joueurs qui ont perdu leur place et qui sont très bons, hein, Diogo Jota et compagnie, qui ont peut-être trouvé un autre point de chute.
Un gardien de but.
Et surtout un numéro 9, je pense.
Darwin Núñez.
De métier, parce que en fait, ils font toujours.
Oui, parce que Diaz n'est pas un neuf.
Et le vrai neuf, il ne joue pas, en fait, Darwin Núñez. Soit c'est Jota qui joue, soit c'est Diaz, soit c'est Gakpo, même des fois. Donc je pense qu'il y a
Gakpo
un problème.
Gakpo joue même plus que Jota maintenant.
Ouais. Exactement. Donc peut-être un neuf.
Bon, on suivra ça. En attendant, félicitations, congratulations, parce que je suis vraiment polyglotte. aujourd'hui dans Radio Foot, aux Reds de Liverpool. Avant de connaître l'affiche de la finale de la Ligue des Champions en Europe, on connaît celle de la finale de la Ligue des Champions en Afrique, 12 fois vainqueur, et notamment en 2020, 2021, 2023, 2024, c'est-à-dire la saison dernière. Al Ahly du Caire n'en sera pas cette saison, la faute à un but encaissé à la dernière minute vendredi face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, bien sûr, match nul un partout après un nul 0-0 à l'extérieur pour Al Ahly, donc pas de défaite, mais il se trouve que la règle du but à l'extérieur, elle est toujours d'actualité du côté de la Confédération africaine de football, Yoro Mangara. Le Al Ahly qui ne fait pas comme d'habitude ou presque, c'est-à-dire atteindre la finale de la Ligue des Champions, c'est un petit événement. On est assez loin de la crise au Real Madrid, pour le Real Madrid de l'Afrique.
Je crois aussi qu'ils ont perdu cette saison des joueurs importants, comme Abdelmonem qui a signé à Nice, qui l'année dernière, si on se souvient, en demi-finale, c'est lui qui marque le premier but face au Corbeau de Lubumbashi, et c'était face au TP Mazembe. Ils ont perdu pas mal de joueurs et ils n'ont pas été très bons, même en saison régulière, du côté de l'Égypte. Je ne suis pas surpris qu'ils se sont fait éliminer par les Mamelodi Sundowns. Et même pour le changement, je crois que c'est bien, ouais, parce que ces dernières années, il n'y a que eux qui gagnent.
Tu vois pas, si c'était qualifié, c'était 6 finales consécutives.
C'est ça.
Alors que t'es quand même un championnat où t'as les pays marocains, pays tunisiens.
Même quand ils changent d'entraîneur, Pitso Motsiman, il vient, il prend 2 Ligues des Champions, il s'en va, il prend un autre, il vient, il enchaîne 3. Oui, c'est bon.
Ce qui en plus ne remet pas en cause le niveau du championnat égyptien, puisque Pyramide FC s'est qualifié. Donc en gros, c'est vraiment, en fait, voilà, c'est une changement au sein du club.
Pyramides FC qualifié grâce à Fiston Mayele, le Congolais qui a signé un doublé face à un autre club sud-africain, Orlando Pirates. Donc on aura quand même une finale de nouveau Égypte-Afrique du Sud. Vous l'analysez comment? Au moins, ce n'est pas deux clubs d'Afrique du Nord l'un contre l'autre.
Sur la saison régulière, les Mamelodi Sundowns sont largement au-dessus de toutes les équipes africaines. Ils ont un très bon centre de formation. Ils ont un président Motsepe qui est à la tête de la CAF, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup investi dans ce club. Tous les meilleurs joueurs de l'Afrique australe sont vampirisés par les Mamelodi Sundowns. Et en plus, quand même, si tu aimes le beau jeu, tu vas forcément aimer les Brésiliens parce qu'ils ont un jeu. Rien qu'à voir la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand tu mets 11 joueurs sud-africains sur le terrain, les 10 joueurs venaient de Mamelodi Sundowns, donc c'est mérité.
Et puis c'est régulier, parce que même s'ils ne font pas une finale tous les ans, c'est quand même une équipe que tu retrouves aujourd'hui dans le paysage du foot africain quasiment tous les ans, quart de finale, demi-finale, c'est une belle équipe.
Et ils ont gagné la seule Coupe d'Afrique.
Fin 2022 ou 2023.
C'était 2016 leur victoire ? Leur première victoire, Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, c'est 2016.
C'est quelque chose comme ça.
Ouais, tu vois, 2016-2000. Donc, tu as 8 ans, 9 ans. Depuis 9 ans, ils sont pratiquement quart de finale ou dernier carré tous les ans. Il y a une régularité. C'est propre, hein, ce qui fait Motsepe. Alors, après, quand tu as les sous, tant mieux. Mais après, tu en as. Non, mais pas uniquement en Afrique. Mais quand tu en as, ils ont des sous. Et puis, ils le gèrent très mal. Et puis, c'est n'importe quoi, tu vois.
Ouais, les PSG, ils ont entendu. C'est pas ton
PSG. C'est un autre.
Parler du PSG, tu sais.
C'est un autre débat. Je vous propose de l'écouter demain dans Radio Foot International. Annie Gasnier sera de retour. La Ligue des Champions sera de retour. Et évidemment, des deuxièmes émissions. Comme on dit, un deuxième service en direct à 21h10 temps universel pour revenir sur les demi-finales allées de la Ligue des Champions. En attendant, pour ce lundi, un coup de sifflet final. A priori, personne ne me jette de glaçons comme samedi en finale de la Coupe du Roi. Ici, une tentative à ma gauche. Naïm Moniol, je vous remercie tout de même pour vos contributions. Merci. Yoro Mangara, merci. Ibrahima Traoré, merci d'être revenu. On est heureux de vous avoir retrouvé à l'antenne de RFI. Merci à Laurent Salerno, merci à Pierre-Olivier Guérin, excellente semaine et excellente soirée en attendant à l'écoute de la Radio du Monde.